What's up, Doc?
Et dans cette chronique hebdomadaire, aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qui embête, et c'est un euphémisme que de le dire, beaucoup de femmes. On va parler de l'endométriose, une maladie bien connue de ces dames, bien moins des hommes, mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette pathologie, et ce, grâce à notre invité, qu'on remercie d'ores et déjà d'être fidèle au rendez-vous, aussi matinal. Il s'agit du professeur Jean-Luc Skifflet, chef du service de gynécologie à Saint-Luc et par ailleurs, bien sûr, chirurgien. Professeur Skifflet, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, professeur. Alors, je le disais, l'endométriose, ça concerne, je pense, beaucoup de femmes. Dans un premier temps, docteur, est-ce qu'on pourrait un petit peu définir l'endométriose? Si vous deviez expliquer l'endométriose à des nuls, pour reprendre le terme bien connu de certains bouquins, comment la définiriez-vous, cette endométriose?
La définition médicale de l'endométriose, c'est le revêtement qui est à l'intérieur de l'utérus, là où se met la grossesse, on l'appelle l'endomètre. Et quand cet endomètre qui s'élimine tous les mois et qui représente les règles, va se localiser à l'extérieur de l'utérus, c'est ça qu'on appelle de l'endométriose.
Bien. Alors, je le disais, ça concerne énormément de femmes et exclusivement les femmes. Arrêtez-moi si je me trompe. C'est dans l'ordre de grandeur. Ça représente combien dans le pourcentage des femmes en Belgique qui souffrent de ça? Ou alors, et est-ce que la Belgique est dans les normes mondiales ou bien est-ce qu'on est plus ou moins favorisé ou défavorisé par rapport à cela?
C'est toujours difficile d'avoir avec précision, de savoir le nombre de patientes qui ont cette maladie, parce qu'il y a quand même un nombre important qui ont cette maladie, mais qui ne le savent pas, c'est-à-dire qui sont asymptomatiques. Mais on estime généralement que 10%, 5 à 10% des femmes qui sont en âge de procréer, c'est-à-dire qui ont la possibilité d'être enceintes, auraient de l'endométriose.
D'accord. Est-ce qu'on a une idée de l'âge auquel cette endométriose peut majoritairement se présenter?
Alors, comme l'endométriose est ce qu'on appelle hormonodépendante, c'est-à-dire qu'elle est stimulée par les hormones qui viennent des ovaires, mais c'est dès le fonctionnement des ovaires et jusqu'à l'arrêt du fonctionnement des ovaires, donc c'est, on va dire, à partir de la puberté vers l'âge de 16-18 ans, jusqu'à l'âge de la ménopause, qui est en moyenne 50-52 ans.
D'accord. Et ça veut dire que quand on a l'endométriose, on l'a tout le temps jusqu'au moment de la ménopause, ou bien ça peut très bien se déclarer de manière fortuite. Une mère de famille qui n'avait jamais eu de problème jusqu'alors peut souffrir d'endométriose par la suite?
Tout à fait. Tout est possible, je dirais, même si, évidemment, on la diagnostique plus fréquemment chez des patientes qui ont entre 20 et 30 ans, mais découvrir de l'endométriose à 40 ans est tout à fait possible, même si on en a, entre guillemets, jamais souffert auparavant. Mm-hmm. Et elle peut être symptomatique, donc donner des soucis à n'importe quel moment de cette vie, je dirais entre 20 et 50 ans, et pour des raisons différentes aussi.
Bien, alors on va bien sûr venir au traitement, et notamment à la chirurgie, j'imagine, qui est aussi un de vos terrains de jeu, si je peux m'exprimer ainsi. Mais vous avez parlé tout à l'heure de patients asymptomatiques, ce qui sous-entend qu'il y a des patients qui ont des symptômes. Alors ces symptômes, quels sont-ils? À quoi faut-il être attentif? J'imagine qu'il y a bien sûr, et pour connaître des femmes qui en souffrent, il paraît que les douleurs sont relativement importantes, voire intenses, pour être tout à fait clair. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes et à quoi cette personne doit-elle être attentive, ou est-ce que l'entourage peut être aussi attentif à certaines choses?
Oui, donc je dirais qu'il y a trois contextes dans lesquels on peut mettre en évidence l'endométriose. Comme je l'ai précisé, c'est de manière fortuite, donc chez les patientes qui n'ont pas de symptômes, c'est les patientes asymptomatiques. On parle beaucoup des patientes qui présentent des douleurs cycliques, donc des douleurs particulièrement au moment des règles, donc devant des douleurs importantes et qui se répètent de manière cyclique au moment des règles, il faut penser à de l'endométriose. Et puis le troisième contexte, c'est dans un contexte d'infertilité, donc l'incapacité à être enceinte depuis plus d'un an.
Bien. Est-ce qu'il y a aussi moyen de prévenir l'endométriose?
Alors, ça, on ne connaît pas à l'heure actuelle, en tout cas, on n'a pas prouvé qu'il existe des traitements qui puissent prévenir l'endométriose. On a des traitements médicaux qui peuvent diminuer la symptomatologie, donc pas spécialement traiter la maladie, mais diminuer la symptomatologie douloureuse. Et un des traitements les plus efficaces pour diminuer les douleurs au moment des règles, c'est évidemment un traitement hormonal.
D'accord. Donc, et le traitement hormonal a une, je dirais, un potentiel de réussite de l'ordre de 90%, 80%, 100%?
Alors, on estime globalement que pour 100 femmes qui ont d'endométriose, au moins 30 à 40% vont répondre à un traitement hormonal, c'est-à-dire vont être soulagées de manière efficace par un traitement hormonal. 30 à 40% vont être soulagés potentiellement par un traitement chirurgical. Mmh. Et malheureusement, il y a encore 30% des patients qui garderont un inconfort malgré ces traitements. Et c'est pour ça qu'on cherche aussi des alternatives. Il y a beaucoup de projets de recherche et des alternatives à ces traitements médicaux et chirurgicaux pour essayer de soulager ces patients qui ont quand même, après tous ces traitements et sept traitements, des douleurs persistantes.
Oui, j'imagine bien. Et vous l'évoquiez donc, l'intervention chirurgicale, elle est de quel ordre en fait? Est-ce qu'il suffit, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'endométriose, c'est une espèce de voile qui se met sur les ovaires, si j'ai bien tout compris, et qui,
oui,
peut, et qui peut également se développer sur d'autres organes par la suite. Vous enlevez juste ce voile ou bien on provoque la ménopause anticipée de certaines femmes pour éviter qu'elles aient l'endométriose?
Voilà, tout à fait. Il y a des traitements différents qui sont établis en fonction de la raison et du contexte. Évidemment, on ne va pas traiter de la même manière une patiente de 20 ans qui désire être enceinte et une patiente de 40 ans qui n'a plus de désir de grossesse. Et donc le but principal, en tout cas, du traitement chirurgical, c'est d'essayer de traiter l'endométriose. Malheureusement, il existe aussi des probabilités de récidive, mais les récidives sont présentes parce qu'aussi on a essayé de garder et de ne pas abîmer le potentiel de fertilité des patients. Mmh. Et comme vous le mentionnez, ça se localise au niveau des ovaires parfois. Et donc le but, c'est aussi de préserver les ovaires pour préserver la fertilité de la patiente. Et ça expose, malheureusement ou heureusement, mais le fait qu'on ait préservé les ovaires expose évidemment à un risque de récidive potentielle.
Bien, alors dans le traitement chirurgical, j'imagine que la réponse est dans la question, mais pour ce qui est du traitement hormonal que vous évoquiez, docteur, combien de temps de traitement cela prend avant que les patientes ou la patiente qui prend ces compléments hormonaux ou cette hormonothérapie d'une certaine façon arrive à dominer et faire en sorte que cette endométriose les lâche?
Alors le but de traitement hormonal, c'est de soulager les symptômes. Et donc, on essaye un traitement hormonal. On peut commencer par une pilule classique. Il y a des pilules particulières, mais on peut commencer par une pilule classique. Et on estime qu'il faut essayer ce traitement pendant au moins 3 mois, voire 6 mois, pour évaluer l'effet sur les douleurs. Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'il y a une différence entre l'effet sur les douleurs et l'effet sur la pathologie. Donc, on peut parfois contrôler les douleurs, mais ça ne veut pas dire qu'on contrôle la pathologie et l'endométriose non plus. Le seul traitement qui empêche l'endométriose d'évoluer, c'est lui supprimer tout à fait ses hormones, donc c'est induire la ménopause. Malheureusement, induire la ménopause a aussi des effets secondaires, à la fois sur le confort des patientes et à plus long terme d'un point de vue médical aussi.
Bien, alors, est-ce qu'il existe aussi, et c'est une question peut-être un petit peu naïve, mais une femme qui ne veut plus ou qui ne veut pas et qui est convaincue de cela, avoir d'enfants, est-ce qu'il y a des femmes qui viennent vous consulter pour avoir une intervention chirurgicale préventive en disant, ben voilà, j'enlève tous les risques d'avoir une endométriose, docteur, opérez-moi?
Mais comme je l'ai dit, le seul moyen d'éviter à la fois, je dirais, l'apparition ou la récidive d'endométriose, c'est induire la ménopause. Donc ça veut dire que ça serait d'enlever les deux ovaires.
C'était ce que je sous-entendais en fait.
Voilà. Et enlever les ovaires induit la ménopause de manière plus précoce que l'âge moyen dont je vous ai dit, c'est 50 ans. Mmh. Et ça, ça a un impact négatif sur la vie d'une femme en termes d'ostéoporose et de maladies cardiovasculaires. Donc c'est pas quelque chose que l'on fait et que l'on propose de faire. Ou alors avec extrême discussion avec les patientes, mais juste quelques années avant la date prévue de ménopause, comme je l'ai dit, qui est aux alentours de 50 ans.
Bien. Alors, je veux dire, hasard du calendrier, en tout cas, ce qui nous a donné l'envie aussi de parler de cette maladie, c'est qu'aujourd'hui, 28 mars, est la journée internationale et mondiale contre l'endométriose. Alors, justement, si c'est une maladie qui revient comme cela, si on en fait une journée internationale ou mondiale, est-ce que ça veut dire qu'on essaie de retrouver des fonds pour la recherche contre l'endométriose ou bien on doit la subir et avoir recours à à ce que vous nous expliquez, c'est-à-dire un traitement hormonal ou chirurgical, ou bien est-ce que la médecine a des projets à moyen, court ou long terme pour éradiquer l'endométriose? Est-ce que c'est envisageable?
Alors oui, c'est envisageable, mais non, ça reste une pathologie très bizarre, parce qu'elle est quand même en fait particulière, je dirais, à la race humaine. Donc il est très difficile de mettre en évidence de l'endométriose, par exemple, chez les animaux. Donc on n'a pas de modèle animal, mais malgré ces difficultés en termes de recherche, oui, il y a des recherches dans le cadre de l'endométriose, heureusement, à la fois d'un point de vue académique, et la Belgique a des centres de référence bien placés dans les domaines de l'endométriose et la prise en charge de cette pathologie. Mais avant tout, ce qui est important, c'est d'en parler. C'est-à-dire que, comme vous l'avez mentionné au début de cette interview, c'est de sensibiliser les patientes qui auraient des douleurs importantes à consulter pour s'assurer, un, de la bonne prise en charge de ces douleurs et éventuellement du diagnostic le plus précoce possible de l'endométriose, parce que ce que l'on observe aussi, c'est les difficultés du diagnostic parfois de l'endométriose. Parfois son diagnostic est facile, mais parfois son diagnostic est beaucoup plus difficile et parfois ne se fait que lors d'une chirurgie et ça induit un retard de diagnostic. C'est-à-dire qu'entre l'apparition des douleurs et l'identification de la pathologie qu'est l'endométriose, il peut y avoir parfois plusieurs années, je dirais, d'errance des patientes avant d'identifier la raison potentielle des douleurs.
D'accord. Ma dernière question, professeur Skiflet, les femmes qui désirent, et vous disiez, il faut aller essayer de faire une forme de dépistage d'une certaine façon, vous le conseilleriez à quel rythme? Une fois par an, une fois tous les deux ans? Et puis aussi, ça consiste en quoi? C'est une radio, un scanner? C'est comment que ça fonctionne?
Mais je dirais qu'il n'y a pas de dépistage de l'endométriose. Par contre, si il y existe des plaintes de douleur et d'infertilité, ça, je pense que c'est important de mentionner, que ce soit à son médecin ou à son gynécologue, un changement, des douleurs persistantes, des douleurs qui augmentent, la nécessité de prendre plus d'antidouleurs, parfois malheureusement l'impact sur la qualité de vie, donc ne plus avoir d'activité sportive, avoir un impact sur son travail, avoir des incapacités de travail liées aux douleurs croissantes. Ça, je pense que c'est un critère qui nécessite de consulter son médecin et d'en rediscuter, et alors de faire une mise au point à la recherche d'endométriose notamment.
Bien, professeur Jean-Luc Skiflet, je rappelle que vous êtes chef du service gynécologie à Saint-Luc, chirurgien bien sûr et gynécologue, on s'en serait douté. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et nous avoir expliqué un petit peu ce qu'est l'endométriose, et ça a probablement ou donné l'envie à certaines femmes d'aller consulter si elles ont des douleurs ou bien simplement de les avoir alertées sur cette pathologie. Merci infiniment et j'espère à très vite.
Je vous en prie, avec plaisir, belle journée.
Belle journée à vous, prenez bien soin de vous, parce que soin des autres, comme je le dis chaque semaine, vous le faites au quotidien, et merci pour ça aussi.
Je vous en prie.